Bienvenue à l'aérospatiale animée par moi-même, Julie Gagné. Et cette semaine, je dois le dire, ce sont de grandes retrouvailles. Oui, des retrouvailles avec le metteur en ondes de toujours de l'aérospatiale, Jacques Gignac, qui est de retour avec nous. Donc, on est bien contents et on applaudit dans nos têtes sa présence. C'est vraiment un plaisir. Cette semaine, ça fait grand plaisir, Jacques. Cette semaine, à l'émission. Éric Dorion est en spectacle ce soir au Studio P. Il pourra pas être là. Par contre, il nous m'a transmis les informations pour sa chronique hebdomadaire. Il souhaitait nous parler de A. Dontigny, un artiste audio, nous présenter l'album, excusez mon accent allemand, Geisteswissenschaften, je crois que je le prononce bien. C'est moi qui le présenterai. On va quand même entendre les quatre extraits que Éric Dorion nous a choisis. Ensuite, en entrevue, on va rencontrer Simon Dumas, qui est directeur artistique des productions Rhizome, qui cette année célèbre leur 10e anniversaire. Plus tard dans l'émission aussi, on rencontre Daniel Drouin, qui est co-commissaire de l'exposition du Greco à Dalí, les grands maîtres espagnols de la collection Pérez Simone, qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Et en fin d'émission, on reçoit enfin notre nouveau collaborateur, Félix Leblanc, qui va nous parler de la galerie Morgan Bridge et qui va nous concocter une entrevue avec Alex Lemay de la galerie Morgan Bridge, justement. Avant tout ça, pourquoi pas tout de suite parler de notre artiste audio de la semaine, A. Dontigny. C'est un artiste québécois, c'est la première fois dont on parle d'un Québécois à l'émission. C'est un compositeur autodidacte, c'est un des membres fondateurs du collectif de bruitisme libre Napalm Jazz et du duo Morceaux de Machine. Il est actif depuis 2003. Il s'implique dans la création du Réseau canadien pour les musiques nouvelles, une organisation nationale bilingue qui vise à promouvoir et à élargir les horizons à la musique nouvelle, en fait. Et dans le sillage de plusieurs compositeurs de plusieurs époques, en fait, Dontigny trouve beaucoup son inspiration dans la littérature. Il y a un de ses projets qui est intitulé « Ciné-fiction » qui a eu pour but la création de trames sonores originales, mais pas des trames sonores pour des films, mais bien pour des livres. Et dans ce cas-là, plus précisément, pour des romans de science-fiction. Ça reste quand même assez intéressant de se mettre dans l'ambiance complètement. On peut aussi déceler dans son travail des influences d'artistes aussi, d'auteurs, en fait, aussi divers que William Burroughs, Anthony Burgess, Guy Debord, Denis Vanier, etc. Il y a une des caractéristiques de ses compositions, des compositions de A. Dontigny, qui est l'importance qu'il accorde à la réflexion sur l'histoire de la musique à proprement parler. Donc, son œuvre, c'est une œuvre qui réfléchit sur l'histoire de la musique, puisqu'à travers elle, A. Dontigny s'interroge sur son propre rôle en tant qu'artiste, sur les conditions de possibilité d'une compréhension de la musique, sur les limites de l'expérience esthétique aussi, et il invite bien entendu l'auditeur à en faire autant. Il questionne autant la pratique que la théorie musicale, et dans ce sens-là, bien, il y a énormément de citations dans son travail. On va le voir aussi avec le titre des pièces un petit peu plus tard. Il oriente beaucoup ses recherches dans la perspective de l'enracinement de l'art dans l'histoire, vu que la musique, quand même, n'est pas liée juste à elle-même, elle peut être liée aux innovations technologiques, aux systèmes de télécommunications, etc., qui, eux, sont dépendants de déterminants économiques. Bref, la musique est en lien directement avec son contexte et A. Dontigny s'intéresse beaucoup à ça. D'ailleurs, il fait le choix de l'engagement. Il cherche à provoquer le débat à travers ses compositions, à favoriser l'échange d'idées tout en privilégiant une expérience qui est plus sensible, donc plus émotive. Si on y va plus précisément sur son album, et là vous excuserez mon accent allemand pitoyable encore, Geisteswissenschaften, il est sorti en 2007 sur l'étiquette No Type. Et quoi de mieux qu'une citation qui parle de l'album pour le décrire? C'est une citation de Foster Wallace. Et la voilà. Quand, comme aujourd'hui, on peut manger de la nourriture Tex-Mex avec des baguettes tout en écoutant du reggae et en visionnant une rediffusion de la chute du mur de Berlin sur YouTube, en d'autres mots, quand à peu près tout se présente comme familier, ce n'est pas une surprise si certaines œuvres d'art parmi les plus ambitieuses aujourd'hui se font un devoir de rendre le familier étrange. peu importe quelle accusation de mauvais goût ou de violation de marque de commerce peut être attachée à l'appropriation artistique de l'environnement médiatique dans lequel nous nageons, l'alternative, se sauver sur la pointe des pieds dans une tour d'ivoire d'insignifiance, est bien pire. Donc, ça met la table, on a un peu le contexte auquel pouvait penser à Dontigny pour son album qui est un peu un zapping de breakbeat, de jazz, de musique concrète, d'électronica, de classique, de situationnisme, de noise, de dadaïsme, le tout décontextualisé. Un album qui est délibérément fait pour être en marge à la fois de la musique électroacoustique, de l'électronica et de l'art audio. Donc l'album est conçu comme une série de petites vignettes sarcastiques. Il manie les postures esthétiques des uns et des autres, va créer une mosaïque sonore qui va multiplier les clins d'œil à l'histoire de l'art moderne, à la philosophie. On parle ici de couper-coller, on parle d'un album qui cherche à mêler les erreurs d'encodage, des citations, des appropriations en tout genre. Et A. Dontigny, pour l'album « Augustus Wissenschaften », ajoute les interventions sonores de trois de ses collaborateurs fidèles, donc Paul Dolden au violoncelle, à la guitare et à la basse électrique, Diane Labrosse à l'échantillonnage et John Vaughn au mix. Globalement, ça se voit, ça se veut comme une ode à la liberté ou un manifeste contre tous les dogmes selon l'humeur de l'auditeur. Ça se veut aussi comme une célébration de l'indépendance d'esprit et de l'intelligence humaine. La preuve qu'il existe encore des œuvres nourries de grands espoirs. Si vous êtes intéressé par l'album, vous pouvez aller sur le site electrocd.com. Ils vendent l'album sur Internet. Aujourd'hui, on en entend 4 extraits, comme d'habitude, parce que les pièces peuvent être quand même assez longues. Donc, on va entendre Turner, Goutaille, Tatlin. Mais pour l'instant, on se le met en oreille immédiatement. On écoute quelque chose d'informel de A. Dontigny sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, on a eu droit à plus qu'un extrait de Ah, Dontigny. On a eu droit à la pièce au complet. C'était quelque chose d'informel qui est tiré de l'album. Excusez mon allemand. Encore Geisteswissenschaften. Maintenant, on est rejoint par Simon Dumas. Simon Dumas, qui est directeur artistique des productions Rhizome. Productions Rhizome qui sont responsables d'une multitude d'événements à saveur interdisciplinaire qui parsèment le milieu littéraire depuis une dizaine d'années. C'est cette année, justement, que Rhizome célèbre son 10e anniversaire et Simon Dumas est là pour nous en parler. Bonjour!
Bonjour!
Ça va bien dans la frénésie de tout ça?
Ça va bien, oui.
OK, là, je vais poser une question vraiment très générale en commençant, là, mais... Oui. C'est quoi exactement la démarche de Rhizome, la mission de l'organisme?
Le point de départ, c'est la lecture publique. Quand on a commencé, le tout premier spectacle qu'on a fait, c'est en 99, puis au départ, moi, je voulais juste organiser une soirée de poésie normale. Et puis, ben, finalement, il y a un band de musique qui s'est intégré, on a projeté un court-métrage en trois parties, puis on avait 400 diapositives expérimentales, mais sans lien vraiment, etc. Puis à un moment donné, il y a... On a décidé de le refaire l'année suivante, l'an 2000, qui est l'année où Rhizome a commencé à exister officiellement. On s'est fait dire que notre multimédia, c'est le terme qu'on disait à l'époque, n'était ni pensé ni apprivoisé. Puis c'est là qu'on a commencé à réfléchir à comment les disciplines artistiques, les médiums peuvent dialoguer pour créer une œuvre, on va dire scénique dans ce cas-ci, ou vivante, une œuvre vivante, signifiante.
Ouais. Cohérente au bout du compte.
Mais toujours en gardant le fil... De la lecture par l'auteur comme point de départ.
Puis là, depuis 10 ans, en fait, en ayant ça comme point de départ, vous métissez la littérature avec d'autres disciplines comme les arts visuels et l'art audio.
Oui. Oui, les arts médiatiques aussi. Puis évidemment, on peut pas ne pas emprunter au théâtre à un moment donné quand on fait... Mais oui.
Puis depuis 10 ans que vous faites ça, sentez-vous que les pratiques évoluent? Parce que tu disais tantôt, on parlait d'art médiatique.
Oui, oui.
Est-ce qu'on sent que les pratiques évoluent depuis 10 ans, les mentalités, justement, relativement à une nouvelle approche de la littérature?
Oui, en fait, moi, j'ai vu des auteurs qui ont commencé à avoir une démarche qui n'était pas qu'une démarche d'écriture, c'est-à-dire que le mode d'expression de leur écriture n'était pas que le livre imprimé. Finalement. Donc, ils avaient une démarche soit orale ou justement interdisciplinaire, mais ça partait toujours de leur propre texte. La compagnie Rhizome garde cette particularité-là d'être une compagnie littéraire qui travaille avec un corpus d'auteurs ultra étendu. Donc, c'est ça.
Puis, pourquoi adopter une approche comme ça interdisciplinaire vis-à-vis de l'art littéraire dans la mise en scène, finalement, dans le spectacle?
De deux choses l'une. La première, c'est qu'on entend souvent cette expression-là, les arts et les lettres. Moi, je pense que ça devrait être les arts, point. Parce que la littérature est une discipline artistique parmi les autres. Et puis qu'elle doit dialoguer avec les autres disciplines artistiques, exactement comme les arts visuels dialoguent avec les arts médiatiques, les arts médiatiques avec les arts vivants, ou la danse, etc. La littérature doit participer à ça. Elle y participe déjà. Ça, c'est une chose. Et puis si... on dit que la lecture publique, porter son texte, que l'auteur portant son texte dans un espace public, c'est une pratique artistique, mais cette pratique-là, ça doit d'évoluer, d'être évolutive, d'être questionnée, remise en question. On doit tester, essayer des trucs. Là.
Puis est-ce que c'est difficile d'amener une nouvelle approche, peut-être de la lecture du texte par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de soirée de poésie plus normale? De changer un peu les visions des gens, parce que c'est certain qu'il y en a qui doivent se dire « Bon, ben, tu sais, une soirée de poésie, puis c'est l'auteur qui dit, puis... »
Oui. Ben, c'est sûr que, bon, techniquement, c'est déjà un défi, parce que, par exemple, dans l'une de nos dernières productions, il y a un système de reconnaissance de mouvement, un système de spatialisation vidéo, le poète est aussi danseur, donc on peut aller assez loin là-dedans, en fait, là. Moi, je pense qu'à la base de ça, c'est la rencontre. Hein. C'est la rencontre entre un auteur, entre un texte et des artistes d'autres disciplines. Ils sont obligés, on va dire, bon là, ton point de départ pour la création que je te commande là, c'est ce texte-là. Il faut que tu utilises l'épaisseur du texte pour aller chercher les éléments créatifs de ton œuvre à toi. Puis après, dans une démarche de mise en scène, on va relier tout ça ensemble d'une façon signifiante.
Bon. OK, donc ce sont vraiment deux démarches de création qui se posent en deux temps, finalement. Il y a tout d'abord le texte, ensuite il y a l'interprétation, puis après, même dans un troisième temps, la mise en commun. Est-ce que vous considérez que c'est important, justement, de décloisonner ça pour faire quelque chose, de les faire se rencontrer, finalement, pour créer peut-être quelque chose de plus grand, une expérience qui va au-delà de la littérature ou de l'art visuel ou de l'art audio?
Moi, je pense que la littérature a beaucoup à apporter aux autres disciplines. C'est-à-dire que si je parlais de cette épaisseur-là, c'est un bassin de sens, un poème, par exemple, d'une part. D'autre part, est-ce que c'est important de décloisonner? Oui, bien sûr. Toutes les pratiques sont de plus en plus décloisonnées. Je pense que la littérature doit embarquer dans ce bateau-là, tout simplement. Là, par exemple, une de nos productions, Atom, a été présentée dans des festivals d'art numérique en Europe.
D'accord.
Et puis ça, je suis très content de ça. J'ai amené de la poésie dans des réseaux qui n'étaient pas du tout littéraires.
Ouais.
Et puis là ton poème, là, il sort du réseau. Là. Parce que sinon, si on reste 200 poètes qui nous lisons entre nous, ça donne quelque chose, je veux bien. Mais il faut que ça... Je pense qu'il y a, par ce biais-là, de cette ouverture-là, il y a un rayonnement là, qui est possible.
Oui, d'ouvrir les frontières, mm-hmm. finalement, puis d'aller toucher dans différentes disciplines artistiques autres ouais. qu'une sur-spécialisation.
Mais on se bat contre des tabous. Hein. Ici, particulièrement au Canada, quand on présente des projets dans d'autres disciplines artistiques, on se fait souvent dire que c'est trop littéraire. Je me suis jamais fait dire ça. T'sais, quand j'ai présenté mon projet au Festival d'art numérique, ils n'ont pas dit que c'était trop littéraire. T'sais.
OK, il y a donc ça ici, aussi, au Canada, il y a une mentalité qui est difficile.
Il y a ce mur-là qu'il faut briser.
Mais quand même, les frontières tendent à se dissoudre malgré ouais. tout. Puis bon, il y a une question que je me pose aussi, parce que là, bon, on a des écrivains, on a des poètes, on a souvent bon des artistes audio, mais comment ça fonctionne quand on veut créer un spectacle interdisciplinaire? Comment vous procédez?
Ben en fait, nous, au départ, là, on est assez vite établi comme trois modalités, si tu veux, qui vont du plus compliqué au plus simple. Et puis ce soir, on commence par cette expression-là, la plus simple, c'est-à-dire c'est une rencontre in vivo. Elle s'opère devant le public.
Ce soir pour Syllabs, qui
pour
est présenté
Syllabs, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est l'expression la plus simple. Après... les autres, c'est séquentiel, exactement comme on disait, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une lecture du texte, une interprétation, une recréation, puis une remise en commun.
Et puis, oui, directement dans le spectacle.
Dans le processus. Là. Bon, par exemple, la série Phonème, c'était inspiré de la pratique de la radiofiction. Donc, il y avait une mise en scène audio du texte avec des voix préenregistrées d'acteurs, etc., qui étaient faites. Puis après, soit on enlevait des bouts pour insérer la voix live de l'auteur. Bon, il fallait se poser la question, c'est qui, c'est quoi la voix de l'auteur dans le florilège des voix qu'on met en scène à ce moment-là, qu'on met en audio, je devrais dire. Et puis, il y a des productions comme Atom qu'on a présentées, qui sont des productions beaucoup plus étoffées, où là, on se rapproche vraiment plus des productions, par exemple, théâtrales, même si c'est pas du tout du théâtre. Là.
Parce qu'on se situe dans un espace...
Parce qu'il y a une scénographie, etc. Mais en même temps, je dirais que assez vite, on a assez bifurqué vers les arts médiatiques. C'est que nous, on travaille beaucoup avec la photo, les images, etc. Puis là, on a commencé à connecter des choses, connecter artificiellement des éléments ensemble, comme dans Atom, le contrebassiste Mathieu Terrien contrôle les éclairages avec les notes de sa contrebasse.
Oh, donc on joue vraiment encore plus.
Faisant sa musique, il est obligé de penser à ce que ça va donner en éclairage, parce que moi, j'ai besoin d'un cue de lumière à un certain moment, disant mon texte. T'sais. Donc, il y a ça, ouais, qu'on travaille là-dessus, là, sur le roulement du signe, puis sur cette espèce de contrainte signifiante-là. Bon.
Puis, vous, Simon Dumas, vous êtes aussi poète.
Oui.
Vous avez écrit notamment un texte pour Atom. Mm-hmm. Comment on se sent comme auteur, comme créateur, quand nos paroles, nos écrits sont repris par des artistes, soit d'autres disciplines ou par des artistes de la même discipline?
Je ne sais pas si la question s'applique
comme
vraiment bien
écrit,
à moi, parce que moi, j'ai tout initié dans mon cas. C'est un projet personnel. Je veux dire que là où il y a eu cette espèce de... Quand je disais « Ah, wow, tu sais, qu'il y a quelqu'un d'autre qui assume mon texte, qui le lit, etc. » C'est quand j'ai enregistré les lectures de Nicole Brossard et d'Andrea Michaud lisant mon texte, dans le but d'utiliser leur voix pour faire avec moi un chœur dans la performance. Et puis ça, j'avoue, Nicole Brossard a publié son premier livre en 1965. C'était quelque chose d'aller chez elle puis de lui faire enregistrer mon texte à moi. Sinon, comment on se sent? Moi, j'ai trouvé que ce texte-là, il prend vraiment toute sa mesure à travers ce travail-là, là, parce que, évidemment, je crois que...
Parce qu'il est conçu mise en scène, pour ça, ouais, au presque, bout du compte.
Ouais, quand, ouais,
seul, vraiment. Il y a peut-être moins de...
Parce que c'est un texte qui s'inspire d'une photo que j'ai effectivement prise, puis qui après retourne vers la photographie, la vidéo, dans le fond.
Donc, il fait tout le chemin, ouais. Le cercle pour revenir.
Deux fois.
Vous avez une installation, en fait, aussi, pour célébrer le 10e anniversaire de Rhizome. C'est des suces de Brakshita 2.0 de, mon Dieu, j'ai oublié de noter son nom, de Dimanche, Thierry Dimanche.
Oui.
Ça se veut une installation hommage, relecture à Claude Gauvreau. Qu'est-ce que c'est intriguant?
Des suces de Brakshita, c'est un spectacle qu'on a fait en 2004. Qui s'est construit autour des paysages électroacoustiques que fait le poète Thierry Dimanche à partir d'éléments d'archives de la nuit de la police 70, de Radio-Canada, même d'une espèce de radio religieuse bizarre. Et en tout cas, c'est complètement kaléidoscopique et c'est pas névrotique, là, mais il y a quelque chose, là, on est dans la tête à la fois de Gauvreau et dans la tête
dans
de
la
Thierry.
Folie,
là, et puis, donc, l'installation reprend ces éléments-là. Il y a les séquences courtes et les séquences longues en bloc, si vous voulez. Et c'est le visiteur qui déclenche ces éléments-là en se promenant dans l'espace.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
C'était Simon Dumas qui nous parlait des productions Rhizome, de tous les spectacles et installations qui sont à venir dans les prochains jours. On rappelle, Rhizome célèbre son 10e anniversaire. Si vous êtes intéressé, ce soir à 20h au Studio P, il y a la soirée Cileps, cabaret poésie et performance sonore et visuel pour vous initier ou pour vous replonger dans cette ambiance. Sinon, il y a l'installation justement des Suces de Brakshita 2.0 qui est présentée au Centre culturel et environnemental Frédéric Bach, je crois, sur l'avenue de Salaberry.
Exactement.
Voilà. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute A. Dontigny avec la pièce Tatlin sur les ondes de CKRL 89.1. We'll be right back. Toujours à l'aérospatiale, en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde, on vient d'entendre Tatlin, une pièce tirée de l'album Geisteswissenschaften de A. Dontigny, bien entendu. Il y a certainement un lien avec l'artiste russe. Voilà, c'est l'heure du calendrier à l'aérospatiale. Il y a plein de choses qui s'en viennent. En ce moment, on est dans un petit creux là, sur les expositions. Ça va recommencer pas mal vendredi. Mais comme on a rencontré Simon Dumas de Rhizome pour parler du 10e anniversaire, ce soir, Cilebs, cabaret, poésie, performance sonore et visuelle au Studio P, c'est à 20h et c'est gratuit. Sinon, si vous êtes intéressé par Phonème, il y a une soirée demain à compter de 20h, toujours au Studio P. C'est gratuit encore, c'est une mise en scène audio de textes littéraires dans la formule du radio-roman. Ça risque d'être fort intéressant. Il y a toujours l'installation aussi des Suses de Brakstad 2.0 au centre Frédéric Bach. Outre ça, au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a un atelier pour enfants sur la création de guitares cubistes à l'occasion de l'exposition du Gréco à Dali. C'est tous les samedis et dimanches du mois d'octobre à 13h, 14h15 et 15h30. Ça coûte 2$ par personne et les enfants peuvent repartir avec leur création cubiste. Du côté des expositions, il y a François Simard qui nous présente toujours une pièce à la galerie le 36. Cook Sasseville termine son exposition à Regard cette semaine, donc c'est votre dernière chance si vous voulez aller voir La vie en rose. Même chose pour Laurent Gagnon qui présente Alimenter la réflexion à Engramme. Et cette semaine, nouvelles expositions, notamment du côté de Vue, dès vendredi prochain. Il y a le collectif Relève Québec, composé de Vicky Sabourin, Guillaume Adjuteur-Provost et d'Alexandre Janson, qui nous présente l'exposition Changement d'identité, œuvre de fiction. Le vernissage est vendredi à 17h. En même temps, il y a le vernissage de l'exposition de François Chevalier chez La Certe, une exposition qui s'appelle Le méchant loup et qui est un hommage à Tex Avery. Et finalement, dès jeudi, Caroline Guindon qui expose Tragédie fantôme à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Bien entendu, le vernissage aussi commence en même temps. Pour terminer, deux expositions qui sont pas tout à fait finies, mais qui tirent quand même à leur fin. La résidence de Luis Armando Garcia Garza à la Chambre Blanche, exposition qui s'appelle Viento del Norte. Et aussi Gilbert Poisson qui présente à Materia le jeu du collectionneur. Les deux expositions se terminent le 31 octobre. Nous allons en pause et on se retrouve de l'autre côté pour jaser avec Daniel Drouin sur l'exposition du Gréco à Dali sur les ondes de CKRL.